L'apéreur scientifique.
C'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les deux.
Bonjour à tous, il est 16h30. Vous êtes bien au micro. Enfin, je suis au micro de Radio Campus Paris. Bienvenue à la Happy Hour scientifique. Ah bah, Raphaël, tu es là, tu veux venir
Raphaël,
Attends, on va faire ça bien dès le début. Bah, c'est horrible ce que
merci.
Tu dis. Comme ça, c'est super parce qu'on t'a dès le début et ça, c'est une vraie chance. Trop bien. Donc, je vais recommencer. Bonjour à tous, il est 16h31 et bienvenue à l'Happy Hour scientifique pour cette émission spéciale du festival Paris Science. Pendant une heure, on va parler du film scientifique, alors surtout, restez à l'écoute. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 octobre et tiens, j'ai entendu dans le merveilleux générique de l'émission que l'Happy Hour scientifique c'était la rigueur du savoir, la passion du comptoir, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris. Mais du coup, ça ne fonctionne pas parce que, on va débunker tout ça. C'est une émission très spéciale aujourd'hui pour plusieurs raisons. La raison numéro 1, bah déjà la date. Parce qu'on n'est ni jeudi, ni un jeudi par mois. Parce que notre émission d'octobre, c'était déjà jeudi 10 octobre. Donc ça va pas du tout. Mais du coup, ça fait que c'est spécial. Raison numéro 2, vous l'avez peut-être entendu, mais aujourd'hui, on est en direct à l'extérieur depuis l'Agora. On est au cœur du Jardin des Plantes à Paris, juste à côté du Muséum d'Histoire Naturelle. Et non seulement il y a des gens hyper bien qui sont là... Ouais. Et en plus, le cadre est hyper beau, donc merci beaucoup. Et du coup, ça fait que c'est spécial. Raison numéro 3, cette émission se fait dans le cadre du festival Paris Science. Et là, non seulement c'est spécial, mais en plus c'est stylé. Donc quand on va sur leur site internet, on peut lire que Paris Science, c'est un festival international du film scientifique organisé par l'association Science et Télévision. Ils présentent gratuitement une sélection du meilleur de la production documentaire scientifique française et internationale récente dans toutes les durées, sur tous les formats et pour tous les publics. Et bien ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est exactement sur ça que va porter notre émission. Comment le fond et la forme s'associent dans un travail de film scientifique. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du film scientifique sous toutes ses coutures, de la vidéo TikTok au documentaire Arte. Et pour cette émission très spéciale, je suis en très bonne compagnie. Alors je vais présenter les personnes qui sont autour de cette table. Tout d'abord, Ilona Bouvard, bonjour.
Bonjour.
Ta chronique porte aujourd'hui sur l'importance du récit dans les œuvres scientifiques.
Ça, oui, ça va être magique.
Ça va être trop chouette. Sacha Citerne, bonjour.
Salut.
Aujourd'hui, tu nous proposes de plonger dans l'univers de l'intelligence artificielle dans le documentaire.
Exactement, on va fouiller un peu les tréfonds de l'IA dans la création vidéo.
Ça va être hyper intéressant. Nathan, qui a été de manière très violente viré par Raphaël Itier.
Je suis confus, on m'a invité à le virer.
Donc voilà, Nathan, il va nous faire un petit jeu tout à l'heure. Raphaël Itier, tant que t'es là, j'en profite. Tu viens d'arriver, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots?
Oui, je suis réalisateur de documentaires scientifiques et je suis scientifique de formation puisque j'ai une thèse de biologie, j'ai fait une thèse sur la mémoire des mouches et après j'ai bifurqué vers le journalisme et depuis quelques années je fais du documentaire et je suis toujours dans les eaux de la science.
Merci infiniment d'être là, on est trop content que tu sois avec nous.
Je suis content d'être là.
Et celle qui doit être hyper contente que tu sois là, c'est Chiara qui va s'occuper de l'interview. Ça va Chiara?
Bah oui, ça va super, ça va être chouette, on va pouvoir poser plein de questions à toi Raphaël.
Avec plaisir.
Et on va pouvoir discuter du documentaire scientifique sous plein d'aspects différents, donc ça va être trop bien.
Bien sûr, cette émission ne serait pas possible sans les personnes qui sont à la technique. Alors un grand merci à Marion et Jocelyn et toute l'équipe de Radio Campus Paris. Et je n'oublie pas notre merveilleux public qui est hyper content d'être là.
Ouais.
Et aussi, on la présente également, Alice Carliez, animatrice de cette émission.
Oui.
Allez, du bruit pour Alice.
Dans le Festival Paris Science, on parcourt le monde scientifique avec des débats, des expos, des émissions de radio, mais surtout avec des films scientifiques. Alors déjà, qu'est-ce que c'est, Colin? Donc, le film scientifique, excellente question, que vous êtes pertinent aujourd'hui. À Paris Science, le film scientifique va de la vidéo de type YouTube au documentaire d'une heure et demie. Il y a plusieurs prix, des prix pour les films destinés à la télévision, des prix qui vont pour les films qui sont destinés à Internet. Il y a des concours où il faut réaliser des courts-métrages en 48 heures avec une équipe de scientifiques. J'ai même vu que cette année, il y avait Symbio spécial sport dans le cadre des JO de Paris 2024. Donc c'est super chouette. Il y a un seul mot d'ordre, c'est partager la science. Ça fait trois mots d'ordre, partager la science. Et cette année, il y a un truc hyper spécial. c'est qu'on célèbre les 20 ans du Festival Paris Science. Et déjà, donc, bravo Paris Science. Joyeux anniversaire. Et 20 ans, c'est, moi, je trouve ça hyper fort comme message. 20 ans, c'est plus que 16 millions de Français. Vous savez, qu'est-ce qui va avoir 20 ans en 2024?
Non.
Et bah, je vous propose de faire un petit jeu qui s'appelle le jeu des 20 ans.
Le jeu des 20 ans, allez, c'est parti.
Il y a un jingle ou...
C'est le jeu des 20 ans.
Le jeu des 20 ans, c'est un peu comme le jeu des 1000 francs. Pour les questions culture, vous allez avoir une petite récompense musicale à la fin si vous trouvez la réponse. Il y aura aussi des questions sciences, parce qu'on est dans un festival du film scientifique. Et comme récompense, vous aurez la reconnaissance infinie de la part du public. Ils feront genre... Oh, qui sont intelligents!
Sachant que le public peut bien évidemment
répondre aux questions.
L'objectif, c'est que vous jouiez avec nous. On n'est pas là pour juste jouer devant vous.
Vous pouvez lever la main, hurler ou faire une danse celtique comme vous vous semble.
Comme vous préférez.
Alors, pour cette première question du jeu des 20 ans, je suis un réseau social fondé en 2004. Ça fait 20 ans. Très vite, je suis devenue un phénomène mondial connectant des milliards d'utilisateurs. J'ai été conçu par un étudiant américain, oui.
C'est... Est-ce que ce serait pas Facebook?
Tout à fait.
Waouh, mais qu'est-ce que
je dis la fin de la question. Bravo. J'ai été conçu par un étudiant américain initialement destiné aux étudiants de l'université de Harvard. Je suis le propriétaire d'Instagram et WhatsApp. Mon logo est reconnaissable avec une lettre F bleue. Je suis Sacha.
Facebook.
Merci beaucoup, Facebook.
Attention. Il y a un jingle qui arrive.
Il y a un petit jingle, mais c'est une récompense pour la question culture.
Ah ouais.
Ouais.
La chanson aussi, elle a 20 ans, non? Parce
l'objectif de ce jeu, c'est de se rendre compte à quel point 20 ans, c'est beaucoup, et à quel point Paris Science gère depuis 20 ans.
Effectivement.
Donc oui, il y a un côté un peu rétro. Maintenant, c'est une question science. Une question donc pour la reconnaissance incommensurable de ma part. Je suis un projet scientifique majeur qui a été publié le 21 octobre 2004. J'ai été achevé après plus d'une décennie de recherches en génétique.
Séquençage du génome humain ?
Oui !
Bravo, Raphaël !
Et en plus, tu l'as eu hyper tôt, parce que j'ai encore 3 phrases.
Elle est finie, Alice.
J'ai ouvert la voie à des avancées sans précédent dans la compréhension de la biologie et des maladies. Mon nom désigne l'intégralité des données de l'ADN humain. Je suis la publication de la séquence complète du génome humain. Bravo, Raphaël.
La
reconnaissance infinie de tout le monde. On peut l'applaudir.
On l'applaudit bien fort.
Allez, question culture. Question nostalgie.
Ah,
je suis une console de jeux vidéo portable lancée en 2004. Mon succès a été planétaire avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus.
Je crois qu'Ilona veut répondre.
Alors, est-ce que c'est la Nintendo DS?
Oui, c'est la Nintendo DS. Donc je finis, j'ai accueilli des franchises. Non, j'ai écrit ça, je me suis appliquée et tout. J'ai accueilli des franchises emblématiques comme Pokémon, Mario Kart et Animal Crossing. Et j'ai été produite par un géant japonais du jeu vidéo. Célèbre pour mes deux écrans, dont un tactile, j'ai marqué un tournant dans le monde du jeu vidéo. Je suis la Nintendo DS.
Quel remix!
Bon,
c'est fou, donc t'es en train de dire
il
n'y
a
que...
pas de récompense musicale pour la science.
Non, c'est de la reconnaissance.
La reconnaissance de Alice.
C'est mieux.
Après, si vraiment tu tiens de la musique, on peut chanter, on peut faire plein de choses.
On fait une choré à tout moment.
La choré de la science. Et ça tombe bien parce qu'il y a encore une question science.
Allez.
Et c'est une question neurosciences et biochimie, attention. 2004, c'est l'année de la mort de Julius Axelrod, prix Nobel en 1974, récompensé pour ses travaux importants qui portent du coup sur la catégorie de molécules que l'on cherche. Donc on cherche une catégorie de molécules. Je suis une classe de molécules produites par le système nerveux et les glandes surrénales. Je joue un rôle clé dans la réponse au stress, la régulation du rythme cardiaque et la pression artérielle. Oui, ça joue.
Est-ce qu'on ne serait pas sur des hormones?
Alors, je vais avancer un peu.
Tu cherches le nom d'un neurotransmetteur spécifique.
C'est une famille de neurotransmetteurs, d'accord, dont les membres les plus connus sont l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Donc c'est effectivement une hormone et un neurotransmetteur.
Okay.
Et c'est un nom qui commence par un C. Le cortisol.
On a cortisol dans le public.
Ah, j'ai entendu, je crois.
Les catécholamines.
Oui, qui a dit ça?
Oh, c'est monsieur dans le fond.
Bravo.
Et on peut applaudir pour les catécholamines.
Je pensais que personne l'aurait et je voulais trop me la péter en mode je suis trop forte. Et non, il y a quelqu'un qui est encore plus fort que moi.
Et ouais.
Merci beaucoup. Et dernière question, question cinéma. Je suis le dernier film d'une saga extraordinaire, sorti en 2004. Réalisé par Alfonso Cuarón, je partage les aventures d'un jeune sorcier confronté à la menace des Détraqueurs. Mon
Harry
héros...
Potter.
Hey, c'est Harry Potter. It's Harry Potter.
Harry Potter.
Et plus précisément...
Le troisième.
Donc le titre, c'est...
Le prisonnier d'Azkaban.
Tout à fait.
Oh
Harry
là
Potter
là.
Et le prisonnier d'Azkaban.
Je ne vois pas le rapport à Harry Potter.
Mais si, c'est un rap sur Harry Potter.
C'est un magnifique remix.
Donc,
sur
t'es
Harry
en train
Potter.
De nous dire que Paris Science Festival est aussi vieux que le troisième volet d'Harry Potter?
C'est exactement ce que j'essaie de vous faire comprendre. En tout cas, merci à
c'est
toutes
vieux.
Et à tous d'avoir participé à mon jeu. Merci aussi dans le public d'avoir participé. Comme vous avez vu, 20 ans, ça peut paraître loin. Tout ça pour dire que 20 ans, ça fait beaucoup. Et ça montre toute la badassitude du festival Paris Science dans lequel on partage des œuvres audiovisuelles scientifiques. On va maintenant passer à une courte pause musicale après laquelle il y aura ton interview, Raphaël. Bon, du coup, tu t'es déjà présenté, c'est super. Et donc, on peut te faire une petite pause de musique. Youpi !
Allez.
Send it out.
16h45 que vous êtes bien sur Radio Campus Paris, de retour dans l'émission de l'Happy Hour scientifique spéciale Paris Science. Vous avez reconnu la musique de The Police, Message in a Bottle. Pour ne rien vous cacher, il s'agit d'une petite référence à un de tes documentaires, Raphaël, Les aventuriers de l'ARN messager, coulisses d'une révolution scientifique. Raphaël Itier, bonjour.
Bonjour.
Tu es auteur et réalisateur, en particulier tu as réalisé... tu as réalisé une dizaine de documentaires scientifiques. Alors moi j'en ai décompté 11, mais il y en a peut-être plus.
Non, je dirais même qu'il y en a moins.
Sur
certains que tu as repéré, probablement que j'avais simplement un rôle d'auteur. Donc
voilà,
je ne les ai pas réalisés. Au début,
j'ai
commencé le documentaire en tant qu'auteur et même co-auteur. C'est-à-dire que j'écris l'histoire et un réalisateur le prend en charge pour la mise en image, parce que moi, je ne savais pas faire.
Mais en plus, ce qui est impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle tu l'as fait, mais on en parlera mieux avec Chiara. Parce que d'abord, il y a une petite tradition chez nous, ça s'appelle le shot à l'invité. Donc, happy hour scientifique, shot à l'invité, il y a un univers. Pendant une minute, je vais te poser des petites questions rapides et il faudrait que tu répondes du tac au tac. Est-ce que okay. T'es prêt?
Plus ou moins, mais allons-y.
Il y a un petit jingle qui va se lancer normalement.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
Est-ce que on lance? Ouais, top. Si on était vraiment dans un bar là, tu commanderais quoi?
Un blanc.
T'es plutôt chauve-souris ou tardigrade?
Tardigrade depuis peu.
Sur quel sujet ton cerveau fait-il l'autruche?
Le climat, comme tout le monde.
Combien de temps par jour estimes-tu que tu passes derrière un écran?
Beaucoup trop, plus de 12 heures.
Oh waouh! Moi je pense que c'est pareil. Ça remonte à combien de temps la dernière fois que tu aurais dormi à tout prix?
Tous les soirs, moi je dors à tout prix, moi je dors beaucoup.
Est-ce que tu manges de la malbouffe?
Très peu.
Ah. Bébé sur mesure ou adulte aléatoire?
Bébé sur mesure, avec enthousiasme.
Quelle est la meilleure durée pour un document? Ah non!
Oh mince!
On va devoir en parler après!
Oh, trop bête!
Merci beaucoup d'avoir subi ce shot à l'invité. Et donc maintenant, je vais passer la main à Chiara pour la suite de l'interview.
Et ouais, merci beaucoup déjà d'être là. Ouais.
Merci pour l'invitation.
Encore une fois. Du coup, je reviens encore une fois un peu sur ton parcours pour les auditeurs qui nous rejoignent juste maintenant. Mais du coup, tu as fait un doctorat en neurosciences à Paris-Saclay, si je ne dis pas de bêtises.
Et pour autant, je ne me rappelle pas des catécholamines.
Eh mince, ah, comme quoi. Tu es devenu chroniqueur, présentateur, journaliste, animateur. Tu as vraiment beaucoup de cordes à ton arc. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur ta casquette de réalisateur. Et moi en particulier, j'ai très envie de parler du documentaire que tu viens juste de présenter à Paris Science, vraiment juste avant de nous rejoindre d'ailleurs. c'est-à-dire Les aventuriers de l'ARN messager, que j'ai adoré d'ailleurs au passage.
Merci pour lui.
Et du coup, il a été diffusé il y a environ un an sur Arte, c'est ça, pour
Absolument.
La première fois. Et là, du coup, dans le cadre aussi de cette nouvelle édition du Festival Paris Science. Donc, ton documentaire, il raconte les avancées historiques qui ont mené à la création du vaccin ARN, qui a permis, entre autres, de lutter aussi contre la pandémie du Covid-19. Donc, sujet hyper intéressant. Et ma première question, c'est par rapport au fait que tu es passé par la case recherche, donc science, avant d'avoir une carrière de journaliste et là, du coup, de réalisateur. Pourquoi t'es tourné vers la réalisation de documentaires ensuite?
Ah, parce que la télé, c'est plutôt un média de flux qui permet pas de creuser, contrairement à la recherche où on passe beaucoup de temps sur une seule question. Et j'ai quitté la recherche parce que je manquais un peu de patience, parce que poser une question en janvier et avoir la réponse en décembre, c'était pas dans mon tempérament. Donc ça m'a plu de pouvoir bifurquer sur du flux, mais au bout d'un moment ça me manquait de ne pas pouvoir approfondir et de ne pas pouvoir créer une forme, une narration, enfin rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus créatif, ce que permet le documentaire. Et puis je trouve que le documentaire science, c'est mon périmètre. Et j'ai une forme de légitimité. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas d'ânerie, hein, mais au moins c'est une espèce de confort intellectuel et j'ai gardé la curiosité et retrouvé même l'enthousiasme que j'avais quand j'étais à la fac, c'est-à-dire avant d'entrer dans un laboratoire, parce que moi j'ai jamais été bon en manip, mais en revanche être dans un amphithéâtre et apprendre plein de trucs très 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 vite, Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Et le doc, c'est la possibilité de scanner plein de sujets différents et d'avoir au moins l'illusion que tu les approfondis. Voilà. T'es jamais un spécialiste à la fin d'un documentaire, mais du coup, je trouve que c'est un équilibre qui intellectuellement est intéressant et qui allie la créativité. Et ça me va. Enfin, je suis content.
Parce que tu te dis que du coup, dans un laboratoire de recherche, tu te concentres sur un sujet entre janvier et décembre, mais en même temps, pour réaliser un documentaire, je sais pas, par exemple, c'est lequel le documentaire qui t'a pris le plus de temps d'investigation au niveau des recherches, par exemple ?
C'est peut-être pas l'ARN en termes d'investigation, parce qu'une grande partie du travail avait été fait par Fabrice Delay, qui est co-auteur, en fait, qui avait écrit un bouquin à partir duquel le documentaire a été fait. Mais c'est clairement le documentaire qui a été le plus dur à sortir, parce que c'est y a un niveau de science à vulgariser qui est assez complexe, et il fallait mélanger des histoires humaines et des choses. Donc en termes de narration, c'était le plus dur a été celui-ci, mais je suis hyper content de l'avoir fait. Voilà.
Trop bien.
Et je ne l'ai pas fait tout seul.
Oui.
C'est hyper important. Un documentaire, ça se fait évidemment en équipe. Monteur, production, même la musique, dans l'ARN par exemple, le graphisme a une place hyper importante,
incroyable.
Et c'est hyper beau ce qu'ils ont fait. Moi j'ai toujours été fan de BD, et d'avoir l'occasion de bosser avec des gens créatifs sur du coup de crayon, sur de la couleur et tout ça, et d'avoir une narration allégorique, pour moi ça a été une vraie découverte, quoi. Et c'est hyper excitant.
Ouais. Trop bien. Et par rapport au sujet, du coup, c'est toi qui as été à l'initiative de ce sujet-là, du coup, des vaccins ARN, où tu dis que tu étais en équipe parce que c'est l'idée de quelqu'un d'autre avec qui tu as travaillé, par exemple ?
C'est l'idée de la productrice Ségolène Dujardin, qui avait repéré la série d'articles qui était sortie dans ID News, qui est un journal suisse, qui a donné lieu à un bouquin. Et donc elle a acheté les droits sur le bouquin et s'est rapprochée de Fabrice Delay, qui est le co-auteur avec qui j'ai travaillé. Et donc Ségolène m'a parlé du projet. Et moi, ça a résonné tout de suite. Parce que, alors c'est un peu une petite anecdote que je raconte sur le truc, c'est que moi, j'ai arrêté le labo aussi parce que j'ai eu beaucoup de mal avec les ARN. C'est-à-dire que j'arrivais pas à travailler avec parce que c'est instable. Et donc du coup, à la fin de mes manips, j'avais tout perdu, ça marchait pas parce que je travaillais mal, quoi. Je travaillais pas proprement. Et donc du coup, d'avoir la possibilité de faire un documentaire 25 ans après ou 20 ans après sur le sujet ça bouclait un peu la boucle, et j'ai trouvé ça chouette.
Il y a une petite revanche personnelle avec
un
l'ARN.
Petit peu. Je me venge l'ARN.
Et du coup t'as parlé de plein de monde, vous étiez combien au total dans l'équipe pour ce projet là pour ce documentaire là?
C'est toujours compliqué à évaluer. Je dirais qu'il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont impliquées de près dans l'affaire, parce qu'il y a plein de il y a la production, la chargée de production, la direction de production. Il y a un monteur, il y a plusieurs chefs opérateurs, il y a des ingénieurs son, il y a le monteur, il y a ceux qui ont fait la musique. C'est une musique que franchement qui est assez rock et qui est très bien,
carrément.
Qui est très bien réussi. Il y a un archiviste pour aller chercher les archives. Donc il y a plein de noms, j'en oublie. Il y a celui qui étalonne à la fin, il y a celui qui mixe, il y a celui. C'est un peu une armée mexicaine, quoi. Et donc au final, un film est bien à la fin s'il y a une cohérence entre ces gens-là. Donc du coup, le nom du réalisateur, il est devant, mais vraiment, c'est un boulot, un taf d'équipe, quoi.
Bah oui, j'imagine. Et d'ailleurs, notamment par rapport à la musique rock, ça m'y fait aussi penser à ça. C'est trop marrant parce que cette musique rock, je trouve que ça donne aux chercheurs un côté vraiment hyper badass. On va aller créer un vaccin à l'ARN hyper badass. Et du coup, je me posais une question par rapport au fait que même les chercheurs, dans le documentaire, tu les rencontres aussi sur leur lieu de vie. Parfois, ils racontent un peu des anecdotes personnelles. Et du coup, je me demandais si tu pouvais en parler un peu plus de ton choix d'amener un aspect un peu plus personnel des chercheurs dans ton documentaire.
Alors c'était indispensable parce que c'est une science un petit peu difficile à digérer, et donc du coup c'est hyper important qu'il y ait une narration humaine qui porte la curiosité pour garder le contact avec la partie plus pédagogique. Et du coup, ça permet, même quand on n'a pas forcément compris la totalité des éléments en jeu, de garder contact avec une histoire, parce que c'est une histoire humaine et que ça, il n'y a pas besoin de, d'empiler les concepts pour comprendre que quelqu'un est déçu, qu'il est content ou qu'il s'enthousiasme. Et donc, du coup, c'est cette, cette alliance qui fait que le film peut devenir fluide et sympathique et pas trop rébarbatif. Et c'était une, en l'occurrence, c'est un film qui était destiné à Arte. Et donc, c'était une demande d'Arte. Pour rendre accessible quelque chose de compliqué, le mieux c'est de lui donner une dimension humaine et donc d'obtenir des personnages, des témoignages qui relèvent de leur vie. Voilà.
Moi je trouve que c'est une vraie force de ce documentaire, la narration. Et justement, il y a Ilona qui nous propose une chronique sur l'importance du récit dans les œuvres scientifiques. Alors Ilona, on t'écoute.
Merci Alice. Donc pour cette chronique, j'aimerais vous raconter brièvement une petite histoire, celle de Jeanne. Jeanne, depuis qu'elle est en quatrième, a décidé qu'elle et les sciences, ça ne marcherait pas. Elle ne s'est jamais trouvée particulièrement douée dans les matières scientifiques qu'elle a rencontrées le long de sa scolarité. Les mathématiques l'angoissent, la physique-chimie la dépasse, et bien qu'elle aime bien la biologie, elle n'a pas l'impression de tout bien saisir. Ce que aime Jeanne, par-dessus tout, ce sont les histoires. Celles qui comptent les liens que les gens partagent, les récits qui décrivent et décryptent le monde qui l'entoure. Ce que Jeanne veut faire dans sa vie, c'est ressentir, faire ressentir et comprendre. Elle adore s'immerger dans des univers étrangers comme familiers, empathiser avec les personnages, se plonger dans leur monde. Et Jeanne, qui a renoncé aux sciences en quatrième, s'est toujours dit que celles-ci et les histoires, ça n'allait pas ensemble. Puisque l'un est dans l'imaginaire, la fiction, et l'autre dans le réel, le factuel, il lui semblait que c'était une union impossible. Arrivée au lycée, un proche à Jeanne souffre de dépression sévère. Désarmée et dans l'incompréhension du comportement de cette personne, elle décide qu'elle veut s'informer sur le sujet pour chercher à comprendre ce qui tourne dans la tête de cet individu qu'elle aime. Une fois qu'elle se lance dans ses recherches, Jeanne tombe sur une quantité d'informations à laquelle elle ne s'attendait pas. Beaucoup d'articles scientifiques qu'elle peine à comprendre. Alors, elle se penche plutôt sur des livres, des témoignages, des interviews, des conférences, des films, des documentaires qui racontent la dépression. Elle, qui se sentait loin des sciences, plonge entièrement dans leur monde. Elle, qui pensait ne pouvoir rien y comprendre, réalise qu'en fait, il n'y a pas de frontière insurmontable entre elle et les sciences. Parce que Jeanne a fait la rencontre des histoires de sciences. Deux univers qu'elle imaginait inconciliables s'allient devant ses yeux et les choses qu'elle peinait à concevoir se transforment en éléments clairs et saisissables. À travers la force de l'image, la pertinence des récits et la magie du montage, les sciences s'animent. Les molécules dansent, les cellules communiquent, les gens éprouvent et ressentent. Les objets de la science, les femmes et les hommes qui les manipulent, s'inscrivent dans des récits cohérents et enivrants. Bon, alors, je vous avoue, cette histoire n'est pas entièrement fictive. Jeanne, c'est moi, Ilona. Figurez-vous que les histoires de science m'ont tellement envoûtée que j'ai fini par poursuivre des études en biologie, puis en neurosciences. J'ai même été tentée par le doctorat, mais j'ai décidé que je préférais raconter les histoires qui nous viennent des arcanes des laboratoires et des terrains de recherche. Donc voilà, la boucle est bouclée. Quand on se penche sur le pouvoir qu'a la narration, l'importance du récit et des histoires n'est guère étonnante. Avez-vous entendu parler de cette étude, par exemple, qui en 2010 a montré que lorsqu'une personne en écoute une autre raconter une histoire, leurs activités cérébrales se synchronisent. Et cette même étude montrait que plus la compréhension du récit du conteur était bonne, plus il y avait cette synchronisation entre auditeur et conteur. Nous comprenons et retenons mieux les informations qui nous sont transmises lorsqu'elles nous sont présentées comme des histoires dans lesquelles nous pouvons nous projeter. Nos sociétés aujourd'hui, comme le soulève ce festival, sont régies par les sciences. Alors les raconter à travers l'image, la vidéo et les documentaires est plus que jamais important pour que nous puissions tous et toutes saisir la place qu'elles ont dans ce monde que nous devons partager. Ça tombe bien, c'est un peu le leitmotiv du Festival Paris Science, donner au public les clés de compréhension des enjeux scientifiques actuels et de leur impact sociétaux. Et rien de mieux qu'un bon film, une série de qualité ou un documentaire qui nous fait voyager et nous emporte dans les aventures des sciences pour que tous ceux qui sont concernés ressentent, comprennent et fassent ressentir à leur tour comme ce que Jeanne souhaitait. Les récits m'ont concilié aux sciences. Elles sont faites par les humains et nous sommes façonnés d'histoire. C'est la fabrique de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, de ce que nous serons. À travers la vidéo, la mouvance des sciences se dessine et elles prennent tout leur sens. Merci pour votre écoute.
Merci beaucoup, Ilona, pour cette chronique.
Bravo.
Moi, ce que je trouve hyper puissant dans tes documentaires, c'est à la fois la narration et aussi le choix des sujets qui sont hyper poignants, en fait. Là, je pense à Génération Écran, Génération Malade. C'est quand même un sujet qui est hyper lourd. Et pourtant, c'est pendant 52 minutes, on te suit complètement. Comment, justement, tu te dis que tu vas aborder tel sujet de telle manière? Est-ce que quand tu as le sujet, directement, la forme prend, prend vie?
Non. Ouais. Non, au départ, c'est plutôt un flou absolu. Et puis les choses se mettent en place un peu en faisant. C'est-à-dire que ça se fait au moment de l'écriture du scénario, évidemment. Mais il y a plein d'aléas au moment du tournage qui vont rebattre les cartes. Il y a des choses qui devaient avoir lieu, qui n'ont pas lieu. Des choses qui ont lieu, qui sont inattendues. Et c'est jamais qu'au moment du montage qu'on se rend compte s'il y a une espèce de continuité ou s'il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, ben, faut en trouver une. Mmh. Et du coup, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir, de partir avec... Je pars avec une trame logique. Ça doit être ma formation scientifique. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un truc démonstratif. Mais je ne sais pas par avance... si la narration va fonctionner, va permettre d'emporter les choses. Donc j'aime beaucoup faire du documentaire, mais c'est un gros stress pour moi parce que avant que le film existe, il n'y a pas d'histoire. Non, dans ma tête. Enfin, et donc, du coup, c'est toujours stressant. C'est work in progress à toutes les étapes.
Tu as parlé de parfois événements surprenants, trucs inattendus. Moi, j'avoue que ça a un peu piqué ma curiosité. Est-ce que tu as un exemple d'un truc où tu es parti filmer quelque chose, une interview, quelque chose, et c'est pas du tout ce à quoi tu pensais que ça.
Moi, je borde énormément sur le. Vérifie plein de choses, mais par exemple, là, sur le film de l'ARN messager, il était convenu avec Cataline Carico qu'on la voit pendant 2 jours. C'est elle qui a reçu le prix Nobel depuis, pour pouvoir tourner les séquences perso et tout ça. Et ça doit être en décembre qu'elle nous avait donné le feu vert en disant OK, ouais, c'est bon. Puis la période de tournage arrive. Et on est en juin, et quelques jours avant de partir, elle dit « Oui, alors c'est toujours OK, mais j'aurai qu'une demi-heure.
» On passe de deux jours à une demi-heure.
Oui, et donc du coup, là, c'est plus du tout la même. C'est-à-dire que les perspectives de narration, les mises en scène et tout ça, c'est plus du tout possible. Donc, et au final, elle nous aura lâché quand même une journée. Mais alors, ça a été au forceps. Et grâce à Fabrice Delay qui était sur le tournage. Et donc du coup c'est plus souvent des mauvaises surprises que des bonnes, ou des... Alors après il peut faire qu'il y ait une image auquel j'ai pas pensé, une petite situation qui se présente et qui va permettre d'agrémenter une situation. Alors j'ai pas d'exemple précis en tête, mais tout n'est évidemment pas prévisible avant, mais généralement c'est plutôt des embûches que des bonnes surprises. Mais dans une interview, parfois, il y a des choses qui sortent, qui sont inattendues, et dont on n'a pas l'impression qu'elles serviront pour le film, parce qu'elles sont hors cadre, pas prévu. Et puis finalement, ça sera la bonne béquille pour transitionner sur la suite de l'histoire.
Et comment tu fais, du coup, dans le cadre des interviews, comment tu les prépares en amont, de façon à ce que, à la fois, ça te serve pour ton récit, et en même temps, tu ne peux pas prévoir ce que ces personnes vont dire vraiment mot pour mot. Enfin, c'est pas scripté. Du coup, comment tu fais en sorte de t'assurer au maximum...
Tu leur écris un petit texte, pardon.
Non, je les attache. Voilà. Ben non. En fait, il y a une pré-interview importante. D'accord. Dans laquelle je liste les choses qu'ils m'ont livrées, qui me semblent être intéressantes. Ces choses, j'essaye de les inscrire dans le scénario. Et le jour de l'interview à proprement parler, je m'arrange pour qu'ils me les redonnent. Ils me les redonnent. Et si, et je ratisse un petit peu plus large que ce dont j'ai besoin pour générer... des choses que j'ai pas pu voir le premier coup, ou que eux auxquels ils n'ont pas pensé, et donc du coup ça c'est en plus, et ça peut devenir même l'essentiel. C'est-à-dire que ce qui au début était la raison pour laquelle on est venu les interviewer s'avère être un peu long, un peu compliqué, impossible d'obtenir des mots simples par exemple, qui fait que l'interview elle est un peu tuée dans le sens où elle est pas accessible. Ou alors, il faut expliquer tous les mots et tout ça. Et ça devient galère parce que ça ralentit la narration. Et ce qui était une anecdote devient le cœur de l'histoire, le ressort. Voilà. Ça arrive, et dans le cas de Cataline Carico, par exemple, son grand-père était boucher, elle a extrait du gras de cerveau de vache, parce que ça lui faisait pas peur, un cerveau de vache, parce que son grand-père, il a chez menu du cerveau toute la journée, donc elle était habituée. Voilà. Bon, bah ça, c'est difficile à anticiper.
Bah oui, c'est sûr, et ça arrive souvent que... Est-ce que tu dirais que c'était plutôt facile ou difficile de faire en sorte que ces chercheurs-là, ils t'amènent aussi des moments de vie personnels, du coup? Parce que je me dis, je sais pas, je me fais interviewer, je vais pas directement raconter des trucs perso.
Moi non plus. Moi non plus. Là, en fait, il y a une différence culturelle très très forte entre les anglo-saxons et les scientifiques français, par exemple, qui en France, on se réfugie derrière la science uniquement. Alors parfois, on peut obtenir des choses, mais spontanément, les anglo-saxons, eux, le storytelling, ils connaissent, quoi. Mmh. Et donc, du coup, ils livrent des trucs. Parfois, ils fabriquent leur propre légende. Hein. Enfin, je veux dire, ils en font des tonnes sur le côté perso. Et ça a été incroyable, et là voilà. Et culturellement, en France, c'est un peu moins le cas. En Belgique non plus, par exemple. Et donc, faut le savoir avant. Et là, il y a un personnage français, Frédéric Martinon. Qui était pas hyper. Il était un peu rétif à l'idée de livrer des choses. Il en a livré, mais il est hyper sincère, il est hyper agréable et tout ça. Donc on y arrive, mais c'est beaucoup plus compliqué à obtenir.
Est-ce que là, justement, la pré-interview, elle joue, parce que j'imagine qu'il y a quand même un climat à instaurer, un climat de confiance. Est-ce que ça, c'est un truc que tu travailles aussi dans la pré-interview pour qu'il puisse se livrer plus?
Alors, je le travaille pas, c'est présent pour une raison toute bête, c'est que comme moi je suis scientifique, et que la plupart des scientifiques, des journalistes auxquels ils ont affaire, normalement, le sont un peu moins, et donc du coup ils sont hyper rassurés. Parce que je comprends ce qu'ils disent, et je pose des questions en relation, et donc du coup ils se sentent, c'est la perception que j'en ai, ils se sentent plus en confiance. Après, ça a un inconvénient, c'est que du coup le niveau du discours, il monte. Et alors là, il y a tous les mots compliqués qui débarquent. Et donc du coup, généralement, ce que je fais après la pré-interview, c'est que je dis, c'est super, c'est ça qu'on va faire pour l'interview. Simplement, je vous interromperai à chaque fois que vous utiliserez ce mot-ci, ce mot-ci, ce mot-ci, ce mot-là, parce que ça, c'est des trucs que personne ne comprend. Pas que personne. Le mot existe, donc il y en a qui le comprennent, mais qu'on ne peut pas utiliser en télé. Donc je les préviens de ça. Et pendant l'interview, j'essaye d'être vigilant. Ah ouais.
Mais tu le fais comment?
Comment ça, comment?
Mais par exemple, ils sont en train de parler, tu fais hop là.
Non, j'attends que la phrase se termine. Je complimente. Je dis, c'était super, on va la refaire.
Je vois très bien. On va faire une petite pause jeu avec Nathan qui va nous proposer un caps ou pas caps.
Oui.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Merci pour ce lancement. Donc, du coup, j'ai pris la place d'Ilona pour vous faire un petit quiz sur le documentaire animalier, un type de documentaire que j'apprécie particulièrement. Et comment vous dire que j'étais un poil déçu quand j'ai appris que beaucoup des plans que l'on voit dans ces documentaires ne sont pas vraiment pris sur le vif, comme ça, dans la nature, comme on pourrait l'espérer en tant que spectateur. Parfois, pour avoir la bonne image, le plan parfait, il faut ruser un peu. Et honnêtement, est-ce qu'on peut en vouloir au réalisateur de prendre quelques libertés? Oui,
oui,
totalement.
Oui, on peut totalement leur
vous, vous nous mentez ouvertement, ça va pas du tout, les amis.
C'est vraiment pas cool.
Non, bon, en vrai, quand ça n'entraîne pas de mauvais traitements sur les animaux, on peut l'accepter. Difficilement, ça enlève un peu la magie, mais on peut l'accepter. Donc là, je vous ai trouvé trois anecdotes insolites sur des techniques de réalisation de documentaires animaliers. Et je vais essayer de vous les faire deviner. Et ensuite, on pourra débattre rapidement de si oui ou non la méthode utilisée est OK, pourquoi l'éthique, tout ça, tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du documentaire Le Peuple Migrateur, sorti en 2001, qui était un documentaire sur les oiseaux
migrateurs.
Oui, bien joué. Enfin,
béton, hein.
C'était la première question.
Vous êtes hyper vif. Hein.
Pour ce documentaire, les réalisateurs voulaient filmer les oiseaux de très près et en vol, ce qui est un poil compliqué techniquement, mais qui au final a donné des plans incroyables. Et je vous demande, du coup, à votre avis, comment ont-ils fait?
Avec des drones, avec des drones.
Non, mais 2001,
pas du tout.
2001, je suis pas sûr qu'il y en avait pas.
Ouais, 2001,
c'est
des drones.
C'est un ULM.
En avion.
ULM, je crois.
Oui, ULM. Mais il y a quand même une particularité avec les oiseaux.
Avec des oies apprivoisées.
Exactement.
Attends, quoi ? Ah bah voilà. Ah, mais...
c'est allé très très vite.
Mais ils mettent une petite GoPro sur le... une GoPro sur l'OI.
2001, pas de GoPro. Hein.
Bah non, mais ils mettent quoi sur l'OI ?
Ils mettent une caméra sur l'ULM, ils suivent les oiseaux, mais c'est des oiseaux qui ont été habitués à l'ULM. Parce que sinon, ils ne seraient pas là.
Bah oui.
Et donc, du coup, elles ont été apprivoisées pour permettre la prise de plan.
Ah,
exactement. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont élevé des oiseaux migrateurs depuis leur naissance, donc des oies en l'occurrence, en les habituant à la présence humaine et aussi aux ULM, parce que ça reste quand même quelque chose qui fait du bruit.
Tu peux définir ULM pour les gens dans le public, pas du tout moi, qui ne serais pas tout à fait ce que c'est.
C'est une très bonne question.
Ultralight
machine.
Ultralight machine qui vole, je crois que c'est ça.
C'est des genres d'avions sans moteur.
Oui, mais c'était trivial, mais c'était pour le public.
Si, il y a un moteur. Il
y a un moteur.
Oui, il y a un moteur. C'est une sorte de grande hélice, je pense que tu as déjà dû voir ça, une sorte de grande hélice derrière un petit siège.
Mais du coup, c'est quoi les petits œufs, ils sont avec la machine
Alors.
Question suivante.
J'étais pas sur place, mais je pense qu'ils font des vols avec, autour des oiseaux quand ils sont petits, pour les habituer au bruit. Mmh. Et en fait, les oiseaux finissent par suivre l'ULM quand ils sont en âge de voler, du coup. Ils finissent par suivre l'ULM en vol.
Oh, wow.
Voyant le pilote comme leur chef de groupe.
Oh, c'est si mignon. C'est vraiment très mignon.
Donc ça a permis de prendre des images incroyables d'oiseaux en plein vol. On a l'impression de voler avec les oiseaux, ce qui est plutôt cool.
Mais
plutôt
c'est
joli.
Un investissement de fou, parce que ça veut dire que ton documentaire, tu l'as prévu à la naissance, je sais pas quelle est l'espérance de vie de...
Bon, deux ans, mais... ça vole. Donc, faut y prendre un peu en avance. Mais,
ouais,
mais,
ça va,
mais...
ça se fait 2 ans.
Bon,
ça
après,
se fait...
en l'occurrence, là, je sais pas quel a été le délai, hein, mais.
Mais question, je ne me suis pas renseigné sur le cycle de vie des oies.
Est-ce que tu as d'autres questions
pour Jonathan? Oui, j'ai d'autres questions. Alors, il y a un livre qui a été écrit par Chris Palmer, qui est un réalisateur de documentaires animaliers. Et dans son livre, il dénonce un collègue en particulier, Tom Campbell, qui a utilisé une certaine méthode pour filmer des requins qui effectuent des bonds hors de l'eau.
Ah, ça, je crois que je sais.
Ah.
Est-ce qu'ils n'ont pas fait une sorte de canne à pêche avec un bout de viande qui lève comme ça, avec une caméra au bout?
Alors, c'est un appât, en effet, mais c'est pas un bout de viande.
Et merde. Ah, moi, je pensais, genre, je sais pas, ils envoient des ultrasons et du coup, ça leur donne envie de sauter, tu vois, parce que
il
ça les dérange.
Il électrocute dans l'eau.
Il électrocute et hop, ouais. Ça vole.
En fait, il y a une mini catapulte dans l'eau.
D'accord.
Et ça les projette.
Et ils font une marionnette comme ça avec des fils. Super.
Exactement.
Ça, c'est top. Hein.
Non, ce qui est particulier, c'est qu'ils arrivent quand même à avoir des requins qui sautent hors de l'eau, ce qui n'est pas très commun. Donc, à votre avis, comment ils font?
Dis-nous tout. T'as une idée, Raphaël, toi?
Non.
Non, pour les requins.
Ils font peur aux requins
Non.
Non.
Bah, ils mettent plein de mouettes. Non, mais
c'est la face, c'était une bonne piste.
Ah. Ils mettent des surfeurs?
Bah, non, mais ils aiment. Non, mais oui, c'est ça. Pour moi, ils mettent du poisson ou quelque chose, mais un truc qui sent bon dans l'eau. Et après, ils lèvent comme ça et ça les fait sauter.
C'est presque ça. En gros, c'est un appât, mais c'est pas de la viande. Ils utilisent un faux phoque qu'ils accrochent derrière un bateau. Ils avancent avec le bateau et en fait les requins du coup ils poursuivent ce phoque et pour une raison que j'ignore ils essaient de sauter pour essayer d'attraper
pour
le phoque
choper,
qui est un peu hors de l'eau. Du coup ça permet d'avoir des plans de requins qui
c'est un peu un cerf-volant mais dans l'eau.
Ouais, c'est un peu ça. Mais je pense que le phoque, alors pour que les requins sautent et essaient d'attraper le phoque doit être légèrement hors de l'eau. Je sais pas s'ils font une sorte
de phoque.
Du kitesurf de phoque.
Donc en gros, des requins font du ski nautique, c'est ça que tu as entendu?
Non, pas du tout.
Merci Nathan, est-ce que tu as une dernière question des requins?
Donc il y a pas mal de documentaires animaliers où on suit des animaux en tant qu'individu, qui ne s'est pas attaché à Shira, la léoparde des neiges, et qui a espéré si fort qu'elle attrape cette marmotte pour nourrir ses proies. Et bien justement, dans Wales, An Unforgettable Journey, donc baleine, une aventure inoubliable, sortie en 96, on suit une baleine à bosse et son petit sur près de 5000 km depuis Hawaï jusqu'à l'Alaska. Donc c'est ce qui fait
c'est
une sacrée distance.
C'est hyper intrusif, non ?
Comment ?
C'est pas hyper intrusif pour la baleine ?
Peut-être un petit peu. Mmh. Peut-être qu'elle s'est sentie observée. Et du coup, à votre avis, comment ils ont fait pour suivre une baleine et un baleineau sur 5000 km, sur une si longue distance, si longtemps ? Je crois que Raphaël,
Raphaël a la réponse
et va décevoir absolument tout le monde.
Bah c'est pas le même.
Attends,
bah,
oui,
c'est jamais le même. Bah, c'est plein de situations différentes qui rassemblées racontent une histoire, mais l'individu lui-même, la plupart du temps, c'en est un autre.
Mais un vrai pro des baleines, il arriverait à voir du coup la supercherie que c'est pas tout à fait le même individu.
Peut-être. Moi, je suis pas un pro des baleines, donc je me fais avoir comme tout le monde.
Ouais. Est-ce que tu nous as déjà menti, toi aussi, Raphaël?
Ah ouais.
Avec les chauves-souris?
Avec un tardigrade, hein.
Avec un tardigrade, par
c'était
exemple.
C'était pas le même
c'était tardigrade
au plan 3 et ah bah, au plan 4.
Oui, oui, non, mais t'es obligé de... Ah bah si, par exemple, pour les documentaires de science, quand on voit une manip se faire, c'est une manip reconstituée.
Oui.
C'est-à-dire qu'on demande au scientifique de reproduire ce qu'il a fait, et il n'est pas en train de faire sa manip pour le vrai. Parce qu'en fait, sinon, si c'est une tannée sans nom. Oui, mais du coup, c'est une mise en scène qui a pour vocation de montrer tel que ça se fait, mais on n'énonce pas le fait que c'est une mise en scène. Donc, quelque part, c'est un peu la même chose que ce qui se passe en animalier. Hein. C'est, l'histoire n'est pas fausse, mais l'illustration, elle, pour la soutenir, elle est mise en scène. Elle est construite.
Il y a toute une problématique par rapport à l'illustration qui est en train d'apparaître en ce moment, c'est les intelligences artificielles.
Et oui.
Pour cette édition spéciale à Paris Science, Sacha, tu as décidé de t'intéresser à l'impact de l'intelligence artificielle sur la création vidéo.
Et oui, et merci Alice pour cette transition miraculeuse. Smooth, hein. Donc on va parler la grande marche de l'innovation oblige, on va parler d'IA. Alors, encore de l'IA, oui, je comprends, c'est un peu saoulant, mais je vais essayer de prendre du recul dans cette chronique. Il s'agira donc ni d'encenser toutes les dernières créations technologiques, ni de créer la panique sur une éventuelle destruction de l'humanité par une super intelligence artificielle. Non, il s'agira d'apporter un regard interrogateur sur ce que l'IA pourrait engendrer dans notre rapport à la création vidéo. Donc tout d'abord, petit tour d'horizon, tout le monde connaît ChatGPT, mais est-ce que vous connaissez Sora ?
Quelqu'un connaît Sora dans le public ?
Oui.
Au fond ?
Alors, Sora, c'est quoi ? C'est l'équivalent vidéo de ChatGPT. On prompte, et au lieu de sortir du texte, Sora crée une vidéo. Sur le site d'OpenIA, du coup, l'entreprise qui l'a conçue, on peut voir des vidéos montrant une femme défilant dans la rue, des mammouths courant dans la neige, ou encore un faux trailer d'un astronaute rejoignant un vaisseau en forme de soucoupe dans un désert de sable. D'un premier coup d'œil, les vidéos semblent assez réalistes et il est difficile de faire la différence avec de vraies images, mais cela reste de courts extraits d'une trentaine de secondes. D'autres IA générant des vidéos au doux nom de Flicky, Pika, A-Jane ou encore Herper
existent. Pour l'instant, on est loin de faire du grand cinéma ?
Oui, Sora n'est pas Scorsese, ne sort pas des chefs-d'œuvre de 3 heures avec des plans à couper le souffle, mais... Je tourne ma feuille. Mais l'IA générative n'est pas en reste et n'est qu'à ses prémices. Donc je profite du fait de m'exprimer au Festival de cinéma Paris Science pour parler d'un autre festival qui se tiendra sa première édition le 14 novembre prochain, l'Artefact AI Film Festival. Il s'agit donc d'un festival de courts-métrages réalisé avec des intelligences artificielles. Le groupe de cinéma MK2 s'est associé avec l'entreprise française Artefact pour ce festival, qui est le premier du genre en France. Avec le thème « réalité » au pluriel, cette première édition cherche à explorer les transformations apportées par les avancées technologiques dans notre quotidien. 167 courts-métrages ont été retenus, représentant des œuvres de pays comme la France, les États-Unis, la Chine ou encore l'Allemagne. J'en ai visionné quelques-uns et franchement, on sent encore beaucoup le tampon de l'IA. Ce qui personnellement me laisse un goût assez amer. Néanmoins, les voix et les musiques apportent parfois une certaine poésie, mais très étrange, surréaliste et assez dérangeante. Donc je vous conseille d'aller en visionner par vous-même sur le site du festival pour vous en faire votre propre avis.
Après le cinéma, tu voulais parler de vulgarisation et de création de vidéos, je crois ?
Et oui, et tu as de bonnes infos, dis donc. Alors avant de discuter un peu ensemble de ce que l'IA nous renvoie comme sentiment vis-à-vis du futur de la création, je voulais aborder le sujet de la vulgarisation. La semaine dernière, le vidéaste youtubeur Monsieur Phi, spécialisé en philosophie, a sorti une vidéo très intéressante et assez terrifiante. Dans un style narratif à la Feldup pour les connaisseurs, nous plonge dans un océan de contenu généré par intelligence artificielle. Monsieur Phi révèle les terribles tréfonds du YouTube philo destiné à la philosophie, voilà. Mais pas n'importe laquelle, celle empruntant au stoïcisme, donc cette doctrine grecque qui vise à se détacher de ses émotions, indifférence à la douleur, au plaisir, au chagrin ou à la joie. On peut la résumer très grossièrement par la phrase « supporte et abstiens-toi », attribuée à Épictète. Ce que la vidéo enquête de Monsieur Phi montre, c'est qu'une quantité phénoménale de vidéos et shorts YouTube sont en réalité une immense ferme de contenu créé par intelligence artificielle. Pire, la majorité des vues et des commentaires qui y réagissent le sont aussi. De plus, le contenu empreinte de stoïcisme a vite tendance à déborder vers la sphère masculiniste, mâle alpha et virilisme. Monsieur Phi déniche même une vidéo d'un homme expliquant le business model à l'œuvre. Les scripts sont générés à partir des titres de vidéos ayant bien fonctionné sur le stoïcisme, appartenant à d'autres chaînes via ChatGPT. Ce script généré par ChatGPT, donc, on le glisse dans une autre intelligence artificielle qui s'appelle InVideo IA, qui est une IA qui génère de courtes vidéos, et voilà, prêt à publier, et à l'infini. Ce qui fait en fait que des IA génèrent du contenu à partir d'IA pour des IA, une boucle infinie d'IA. Alors bon, que penser de l'arrivée de cette technologie dans la création vidéo? Eh bien, je vous pose la question, et je te la pose en particulier à toi, Raphaël. Que penses-tu de l'intelligence artificielle et de ce que ça va faire un petit peu dans le rapport à la création de vidéos?
Alors pour moi, ça pose d'abord un problème de droit d'auteur, puisque une IA consiste à réunir plein d'images pour en faire une synthèse, et donc du coup il y a une inspiration sur des images sur lesquelles il n'y a pas de droit d'auteur qui est payé. Donc du coup ça c'est un peu un problème de fonctionnement. Après il y a une législation qui va s'installer. Pour la petite anecdote, en 2018 ou 2019 j'avais participé à l'écriture d'un documentaire qui avait pour vocation d'être un documentaire qui allait être créé par une IA. Donc le scénario du documentaire, c'est voilà, on va faire le documentaire qu'on veut faire, mais par une IA. Et puis on n'a pas réussi à mener à bout le truc, puis ça faisait trop impossible en fait. Parce qu'en fait, en quelques années...
Ça aurait été possible en fait.
Ah ben, non, pas à l'époque.
Ouais, non, mais c'est ça.
On aurait sorti un truc qui dit que c'est impossible, et puis trois semaines après, tu avais les vidéos avec des prompts qui sortaient et tout ça. Et donc, du coup, il y a un vrai truc qui se passe. Donc, en termes d'animation, de représentation et tout ça, il y a un champ qui est super, super, super excitant. Ça c'est clair, ouais. Ça c'est clair, y compris sur l'écriture des scénarios. ChatGPT peut générer du scénario à partir de corpus ou de choses comme ça. Ça remplace pas l'expertise, ça remplace pas l'auteur, mais ça permet d'aller vite pour collecter des infos. Ça permet d'avoir une trame dont on peut s'inspirer ou diverger ou trouver un truc auquel on n'aurait pas pensé. Donc il y a plein de trucs à prendre dans cette affaire-là. Mais ma première réaction, elle est sur celui qui vend l'outil IA. Utilise en fait des créations de gens qui ne toucheront rien dans l'état actuel de la législation, parce qu'il y a un certain nombre de mouvements qui se mettent en place pour essayer d'obtenir une législation là-dessus, parce qu'on y vient très très vite. Donc il va y avoir une exploitation avec comme les données personnelles qui sont dispersées et qui donnent du profit sans que le propriétaire initial n'en bénéficie. Donc du coup c'est une vraie question.
Est-ce que toi du coup t'as déjà utilisé des intelligences artificielles dans tes documentaires?
Alors, de façon rudimentaire, par exemple, pour chercher un titre.
Ok.
Ouais, tiens, donne-moi des titres pour une histoire qui raconte ça. Titre plutôt marrant. Donc, ChatGPT va générer des choses. Pour créer un dossier pour convaincre une chaîne, ça, c'est très, très bien.
Ah ouais, ah bah tu fais ton dossier de production avec
une IA? Je fais le mood board.
Mais est-ce que tu retravailles le texte derrière ou tu prends juste le texte de ChatGPT?
Non, je prends pas.
C'est pour la mise en forme.
Alors d'abord, moi, mon point de vue sur ChatGPT, sur le texte, c'est que c'est exploitable que si tu connais très bien le sujet. Parce que comme il y a des nouilleries dedans, il faut être capable de les repérer. Donc quand tu maîtrises le sujet, tu peux utiliser correctement cet outil-là. Quand tu maîtrises pas du tout le sujet, tu prends le risque de laisser traîner les âneries que lui va générer. Et sur le dossier, c'était plus sur l'illustration, c'est-à-dire que pour qu'une chaîne ou un distributeur ou achète un film, il faut qu'il se représente les choses, mais les choses, elles n'ont pas été filmées, donc il ne peut pas se les représenter. Bah, oui, mais avec un prompt, tu racontes ce que tu veux dans le style d'image que tu veux, c'est-à-dire la réelle, si tu veux un style années 40, années ceci, il y a plein de choses possibles, et du coup ça génère de l'imaginaire. C'est même un support pour pouvoir écrire. Parce que toi-même, quand tu as généré ton image, tu dis « Ah ouais, tiens, en fait, ça pourrait prendre telle place et tout ça. » Donc, il y a une espèce de ping-pong. Après, moi, mon expérience personnelle, c'est que tu finis par te faire noyer par l'image et tu oublies le fond. Et au final, je ne suis pas sûr que le projet soit il a l'air bien, super, il est épatant, mais t'as un peu lâché la proie pour l'ombre, quoi. Enfin, dans mon cas. Donc, j'ai une utilisation plutôt parcimonieuse et pas forcément très maligne de ce truc-là parce que je ne sais pas itérer. C'est-à-dire que quand tu demandes à une IA de générer une image et que tu en as une partie qui te convient, l'idéal, c'est de pouvoir garder la partie qui te convient puis de demander une modification sur la partie qui ne te convient pas. Moi, je ne sais pas comment on intervient là-dessus. Je pense qu'il faut avoir accès à des IA payantes avec, et puis maîtriser un petit peu le dialogue avec l'IA. Moi, je fais mon prompt, ça ne marche pas. Je change le prompt, je vois. C'est totalement artisanal. Hein. Mais dans le festival, il y a eu une séance professionnelle dédiée à une conférence dédiée à l'utilisation de l'IA dans le documentaire avec plein d'infos sur la question.
Moi, je trouve... Tu voulais dire un truc ?
Ouais, je voulais juste poser une question un peu philosophique sur ce que vous pensez de justement la création par IA d'œuvres, d'images ou de vidéos. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des œuvres d'art au même titre qu'une création humaine ? Pour le coup, j'ai posé... Alors à la base, je voulais faire un quiz sur IA et j'ai changé. Et j'ai demandé à ChatGPT de me proposer des questions pour avoir quelques idées. Et il m'a proposé la question, est-ce que l'IA est capable de créer des œuvres d'art ? Et évidemment, en réponse, il m'a dit que oui. D'après lui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour ChatGPT,
c'est autopromu artiste. Quoi.
Exactement, exactement. Ouais. Donc qu'est-ce que vous en pensez, peut-être Raphaël, tu peux répondre.
Bah, le processus de création chez l'homme, il n'est pas forcément totalement différent de ce que fait une IA en vrai. C'est que c'est rabouter des trucs qui traînent un petit peu partout, puis faire un mélange qui va s'avérer être surprenant. Et s'il s'avère qu'il est touchant, est-ce que c'est déjà une œuvre d'art ou une création ? Je ne sais pas, mais je trouve que ça se rapproche avec une réticence à qualifier ça d'œuvre d'art, parce qu'évidemment qu'on a envie d'avoir un être humain derrière ça. Mais je pense qu'on est susceptible d'être ému, bouleversé, choqué par des créations qui sont faites par des moyennes de trucs qui habitent notre quotidien.
C'est vrai
quoi.
Que ça nous met un petit peu à la même place qu'une IA, quoi. Et ça fait un peu mal d'être mis au même niveau qu'un outil, au final.
Une blessure un peu narcissique du propre de l'homme qui était
Et puis, est-ce
l'artiste.
Que vraiment on peut dire que c'est fait par l'IA à partir du moment où il y a quand même un humain derrière qui Carrément. Prompte les idées, qui fait en sorte de modifier l'œuvre d'art au fur et à mesure ? Est-ce que vraiment on peut dire que c'est une création
C'est une co-création.
De l'IA ?
C'est une co-création. C'est un peu comme je parlais à un moment dans ma chronique là, du festival Artefact et EA Film. En fait, voilà, les images sont générées par intelligence artificielle, mais il y a des voix humaines qui viennent se rajouter dessus, il y a de la musique, il y a du montage, donc c'est une co-création. Donc voilà, c'est un melting pot.
En vrai, cette question sur l'art, elle est ancienne avec le ready-made au début du 20e siècle, là, quand on met un urinoir, et c'est juste un objet de la vie quotidienne, mais parce qu'on l'expose, ça devient une œuvre d'art.
Ouais.
Je veux dire, la question de l'œuvre d'art, elle est complexe. Hein.
C'est clair.
Donc du coup, voilà, enfin, j'ai pas de réponse à la question soulevée, c'est marrant comme thématique.
De l'IA au surréalisme. Pour conclure cette émission, est-ce que toi, tu penses utiliser davantage l'IA dans tes prochains documentaires ?
Sur l'animation, pourquoi pas ? Pour travailler avec des graphistes, pour donner des pistes plus concrètes. Enfin, peut-être leur donner un rôle de storyboard, en fait. Okay. C'est d'arriver... Parce que quand tu interagis avec un graphiste, tu dis « Oui, moi j'aimerais bien que patati patata ». En fait, les mots ne suffisent pas à asseoir une ambiance. Enfin, sauf à être un professionnel déjà du dessin et avoir les mêmes codes. Et donc, j'ai l'impression que l'IA, de ce point de vue-là, pourrait être une aide à la transmission avec le graphiste qui, lui, travaillera avec ou sans une IA.
L'IA, une aide à la transmission, et le documentaire, une aide à la transmission d'informations scientifiques. Merci beaucoup, Raphaël Littier. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de Paris Science d'avoir permis l'organisation de cette émission spéciale au cœur du Jardin des Plantes. Bravo d'avoir 20 ans et promis, on chantera votre anniversaire après. Merci infiniment, Raphaël, d'avoir accepté notre invitation. On est trop contents de t'avoir eu à notre micro. On peut retrouver tes derniers documentaires, Les Aventuriers de l'ARN Messager, Coulisses d'une révolution scientifique et le dernier Tardigrade, Les Créatures de l'Extrême. Merci Chiara, Ilona, Sacha, Nathan et moi c'est
et
Alice.
Merci à toi Alice pour cette animation.
Et merci
royale.
Au public qui nous a suivis aussi
beaucoup,
également.
Merci beaucoup.
Bon, bah, il y a messieurs, hein. À la prochaine et au revoir et puis bon retour, hein. Au revoir messieurs.